Bienvenue à toi sur le podcast des nouvelles aventurières. Ce sont des femmes de tout âge et de tout horizon qui ont décidé de faire de leur vie une aventure à travers leur métier, leur passion ou leur défi personnel. Elles nous inspirent et nous prouvent qu'aujourd'hui, tout est possible. Elles ont choisi une vie hors du commun et nous racontent ici leur parcours, leur réussite, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Du rêve à la réalité, découvre les coulisses de l'état d'esprit de ces femmes actuelles, les nouvelles aventurières.
Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de t'avoir comme invitée, Marion. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es CRS secouriste en montagne, donc c'est pas très commun. Tu vas nous raconter tout ça. Bienvenue à toi.
Salut.
On va, si tu veux bien, nous partager tout ton parcours, parce que c'est vraiment atypique. C'est bien le sujet de ce podcast, c'est les femmes qui ont un parcours atypique et qui font des choses extraordinaires liées au sport, au voyage et à leur passion, qui se battent pour leur rêve, notamment. Donc toi, tu as vraiment un parcours très, très intéressant. Tu as créé aussi un groupe qui s'appelle Lead the Climb. Tu nous en parleras sûrement pendant ton récit. Je te laisse la parole, Marion.
Bon, alors je vais essayer de faire quand même un peu synthétique, parce qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc ça m'a laissé le temps de faire pas mal de choses. Et j'ai commencé tout ça à 14 ans. J'aimais beaucoup l'escalade et j'ai eu la chance, dans mon collège, il y avait une classe sport qui s'est ouverte à partir de la quatrième. Et donc, on faisait de l'escalade en compétition le mercredi et les vendredis et du ski de fond l'hiver. Et du coup, moi, je faisais déjà un petit peu tous les sports. Mes parents sont hyper sportifs. Ils nous ont toujours emmenés faire plein de trucs en extérieur avec mon petit frère qui a un an de moins que moi. Donc, j'avais déjà tout fait. J'avais déjà fait de la planche à voile, de la voile, de delta plane, du parapente, du VTT, du ski hors piste, du ski de randonnée, du ski... dans tous les sens, et j'aimais beaucoup être dehors, et l'escalade, et j'aimais aussi beaucoup la danse. Et donc, du coup, l'escalade, c'était une façon de faire un peu de la danse en extérieur, et ça me correspondait assez bien. Et puis, j'aimais pas trop la compétition, mais en escalade, c'est différent, en fait. T'es tout seul dans ta voie, et t'es tout seul à grimper, et à un moment, le jour J, le jour de la compétition, tu dois être au top de ta forme et faire ta meilleure performance, et du coup, c'est exigeant, j'aimais bien ce challenge. Mais j'aimais bien le challenge de donner le meilleur de moi-même, pas le challenge forcément d'écrabouiller les autres. J'ai jamais été très compétition. Donc du coup, l'escalade, ça m'allait bien parce que ça obligeait à repousser ses limites, s'entraîner pour une échéance précise et puis aller vraiment voir de quoi on était capable physiquement. Et assez rapidement, j'avais envie d'aller un petit peu plus haut et j'ai grandi en Haute-Savoie. Donc là-bas, il y a pas mal de montagnes. Moi, j'étais au fond de la vallée et je voyais les montagnes depuis ma cour de récréation, depuis la fenêtre de ma chambre. C'était hyper frustrant. Et je pouvais déjà faire de l'escalade, je grimpais déjà du 6B, du 6C. Donc à partir de la troisième seconde, je prenais mon vélo toute seule et puis j'allais jusqu'au bout de la route. Et puis à partir de là, ma maman elle m'avait appris à lire une carte de randonnée. Donc là, je partais toute seule sur les sentiers et puis je me baladais toute la journée avec mon sandwich. Et j'arrivais au sommet de la montagne et là, je voyais le Mont Blanc. Et je me disais, waouh, et ben, j'ai envie de faire toutes les montagnes qui sont autour, c'est trop beau. Et je redescendais toute seule et voilà. Et j'allais me promener beaucoup toute seule en montagne. Mes parents me faisaient immensément confiance pour me laisser partir à 14, 15 ans, 16 ans, aller dans la montagne. Il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque. C'était il y a 15 ans, 20 ans. Donc ils ont été très.
Ils t'ont bien supporté dans cette voie-là, en fait.
Ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été vraiment super basés sur la confiance. Voilà. On te donne les outils pour aller faire des choses, voilà, on t'apprend et puis ensuite, on te fait confiance et je crois que dans l'éducation générale, de toute façon, c'est ce qui marche quand même le mieux. Mes deux parents étaient profs, mon papa était prof de PS, maman était prof de PS et puis après, il est devenu prof des écoles avec les plus petits. C'était plus facile, puis pour s'occuper des enfants, c'était quand même plus simple parce qu'ils étaient quand même dans une organisation familiale assez traditionnelle, on va dire. Même si c'était traditionnel, quand on allait en montagne et se promener ou faire tous les sports, pour mon papa, être une petite fille, c'était absolument pas une excuse. Et je devais faire la même chose que mon petit frère qui avait un an de moins. Et être une petite fille, c'était pas une excuse pour avoir froid, avoir peur et ne pas essayer. Donc il fallait y aller. Et ma mère aussi, très très grande sportive, m'a beaucoup beaucoup poussée à tenter. Elle me disait pas juste grimpe dans l'arbre, elle me disait mais grimpe dans l'arbre, mais plus haut.
Non, tu sais.
Il fallait toujours repousser ses limites, toujours plus, quoi. Okay. Et la prise de risque, voilà, avec la gestion du risque qui venait avec. Enfin, on a fait des trucs un petit peu incroyables avec mes parents à une époque où aujourd'hui, tout est plus calculé et mesuré. Et je m'en suis bien sortie, hein. J'ai jamais eu d'accident. Tout est toujours là, j'ai jamais rien cassé. Donc, c'est comme quoi, énorme. C'est possible, j'ai eu de la chance. Même parfois, on va pas se mentir. Donc j'ai commencé l'escalade en quatrième et j'aimais beaucoup aller me balader dans la montagne. Et donc l'alpinisme, c'était un peu une suite logique. L'alpinisme, c'est un peu toutes les techniques qu'on utilise pour grimper sur les montagnes dans les Alpes. Voilà, okay. Il existe aussi le pyrénéisme, l'andinisme pour les autres massifs alpins.
D'accord.
C'était compliqué de démarrer l'alpinisme. C'est un sport assez élitiste. C'est-à-dire que c'est quand même réservé plutôt aux classes socio-professionnelles plus.
Okay.
Donc, je faisais partie d'une classe sociale moyenne. Mes deux parents étaient profs, donc c'était quand même possible. Mais il fallait quand même faire un peu des économies. Mes parents étaient très stricts et pas très dépensiers. Mais comme ça, ils pouvaient nous emmener au ski. Toutes les vacances, on allait au ski. Tous les week-ends, on faisait du ski. C'était un peu le prix à payer. Donc, l'alpinisme, mon papa, ça allait un petit peu faire. Il avait déjà fait de l'alpinisme 15-20 ans, quoi, avant ma naissance. Donc, je savais qu'il pouvait m'emmener, mais c'était quand même... Voilà, c'était encore des techniques qui dataient un petit peu, avec du matériel qui datait un petit peu. Mais bon, à force que je le harcèle pour qu'il m'emmène faire une course en montagne, finalement, à 16 ans, j'ai fait ma première course d'alpinisme dans le massif du Mont-Blanc. Ça s'appelait la pointe Isabella Charles Stratton. Et je ne le savais pas encore, mais Isabella Charles Stratton, Isabella, c'était une lady anglaise qui était tombée amoureuse d'un guide de montagne à Chamonix. Et qui finalement est resté à Chamonix et a fini sa vie à La Roche-sur-Foron, là où j'habitais. Et je ne le savais pas, mais il avait choisi donc cette montagne-là comme notre première course. Alors, ce n'était pas du tout une course adaptée pour une débutante comme moi. C'était bien plus exigeant que ce que ça aurait dû pour découvrir l'alpinisme. Mais voilà, mon papa, il avait une pédagogie assez particulière qui s'appelait, qu'on pourrait résumer en marche ou crève. Voilà, donc j'ai survécu à la course. Et en plus, ça m'a vachement plu. C'était trop classe. J'avais 16 ans, on s'est levé à 2h du matin, on a marché sur le glacier, il y avait la pleine lune, et après, il y avait le soleil qui s'est levé dans les montagnes. Et puis finalement, tout à la fin, mon papa, il savait que j'étais capable de faire de l'escalade sportive. Il m'a laissé faire les longueurs de la fin, donc il m'a laissé arriver au sommet en première. Et il m'a fait confiance vraiment jusqu'au bout. Et le retour, forcément, c'était interminable. On a raté le train pour descendre de la montagne. On a tout fait à pied. J'avais des grosses ampoules énormes. En plus, les chaussures d'alpinisme, c'était pas très, très confortable. Ce que j'avais, c'était pas très bon ma taille. Enfin, il a vraiment tout fait pour me dégoûter. Mais ça n'a pas marché. Et du coup, l'année d'après, on a fait du ski de randonnée. C'était ma première course. Mais pareil, hein, il a choisi une course avec 1400 mètres de dénivelé. Enfin, le truc pas du tout adapté à une débutante. D'accord. Avec du matériel bien lourd. Et j'étais avec ma maman, qui est venue aussi. Et tous les deux, ils aimaient bien faire la compétition. Ils étaient partis loin, loin, loin devant. Ils marchaient, ils se tiraient la bourre, là, les deux. Et puis moi, je les voyais plus. J'étais toute seule derrière. Je suivais la trace en me disant que de toute façon, au bout d'un moment, j'allais bien finir par y retrouver. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai appris, les sports de montagne. Et ça me plaisait ce challenge et ce défi à chaque fois. Et je pense qu'en tant que jeune fille, ce qui me plaisait aussi dans l'alpinisme, et ça je l'ai découvert, je m'en suis rendu compte assez tard, mais j'aimais bien cette sensation de liberté quand tu es là-haut. Quand tu es là-haut, t'as pas tous ces, ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas encore ces termes-là, mais le diktat de la beauté. Voilà, qui t'oblige à te raser les poils des jambes à partir de la quatrième et parfois de la sixième, qui t'oblige à te raser les poils des aisselles aussi, qui t'oblige à faire attention quand tu mets un short, à ne pas avoir des auréoles sous les bras, qui t'oblige à te laver les cheveux assez régulièrement pour pas que ça se voit. Enfin, bref, c'est assez exigeant quand même.
On a des toupées barres.
Et chez les jeunes filles, je pense que c'était d'autant plus pesant. Moi, je le sentais déjà quand j'avais 15-16 ans. Et je sentais bien parce que moi j'étais formée, j'étais réglée à partir de 14 ans et tu vois bien que le regard des garçons il change et du coup c'est pesant. Le regard des autres il est assez pesant, alors peut-être pour un garçon aussi, mais en tant que jeune fille je pense qu'il est un petit peu plus. Et puis quand t'es là-haut en montagne, tu fais ce que tu veux, tu peux t'arrêter faire pipi où tu veux, tu peux rentrer sale, tu peux rentrer transpirante, tu peux avoir les cheveux gras, de toute façon on s'en fiche là-haut. Là où ça sent pas mauvais, l'air il est frais, l'air il est pur, et puis t'as du vent dans les cheveux, et c'est très te convient. Et tu t'en fiches, enfin, voilà, t'es pas là pour ça, t'es là pour grimper sur la montagne et en redescendre et te faire plaisir et passer un bon moment et profiter des beaux paysages et d'être accompagné en cordée. Et puis il y avait aussi cet aspect aussi physique, parce que à force de faire de l'escalade et d'enchaîner les grandes courses où je marchais 10 heures, 12 heures, 15 heures, d'avoir des ampoules sur les pieds, de porter des gros sacs et de tirer les skis. Et ben, du coup, j'étais quand même très costaud et bon, c'était pas un surnom très agréable, mais il y en a parfois qui m'appelaient Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles Alors, quand tu as 17 ans, charpentière, c'est pas vraiment ton idéal de beauté que tu imaginais. Mais bon, bah, d'un autre côté, ça veut dire que j'étais quand même costaude. Et ça, du coup, ça te donne d'avoir une force physique. En tant que femme, bah, tu te sens moins vulnérable parce qu'on apprend très tôt qu'on est des proies. Moi, j'ai appris à 6 ans que j'étais une proie sexuelle parce qu'à 6 ans, j'ai arrêté de mettre des jupes parce que les garçons dans la cour me couraient après pour regarder ma culotte et m'embêter tout le temps. Donc, à 6 ans, moi, j'ai arrêté de mettre des jupes et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Oui. J'étais dans une école assez violente. L'année d'après, on m'a changé d'école, mais je n'ai quand même pas remis des jupes tout de suite. On ne sait jamais. Donc, on apprend assez rapidement en tant que petite fille qu'on est des proies sexuelles potentielles. Et d'avoir une grosse force physique, ça me donnait du coup confiance en moi pour tenter plein de trucs, aller me balader où je voulais et voyager toute seule. Dès que j'ai eu 17, 18 ans, ma mère, elle me disait, ouais, si tu veux sortir le soir, aller en boîte, écoute, il n'y a pas de problème. Juste, tu mets des baskets, tu mets des chaussures avec lesquelles tu peux courir. Et sinon, tu peux aller où tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est pour dire le niveau de confiance qu'elle m'accordait. Donc, j'avais le droit de sortir en boîte, mais il fallait que je mette des baskets. Bon, c'est pas grave, hein, tu peux quand même rentrer avec des baskets quand t'es...
Oui, ça se fait très bien aujourd'hui. C'est incroyable, tes parents, ils ont l'air vraiment d'être des personnes exceptionnelles. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des parents comme ça. Donc, ils t'ont sûrement ouvert les portes d'un monde qui n'est pas accessible pour tout le monde. Et après, du coup, en grandissant, tu as choisi de faire des études en particulier dans un domaine. Tu savais déjà que tu voulais bosser comme secouriste ou pas encore? C'est venu plus tard, peut-être?
Alors, à ce moment-là, j'ai 17 ans. Je sais que plus tard, j'ai envie de grimper, j'ai envie d'être dehors. Mais non, je ne peux pas du tout encore me projeter dans les métiers de guide haute montagne ou de secouriste en montagne, tout simplement parce que il n'y a pas de femme du tout. Le métier de secouriste en montagne, je ne le connais pas. Et le métier de guide haute montagne, je le connais. Il y a un guide haute montagne dans le club d'alpinisme à côté de chez moi où on faisait des sorties du coup, avec mes parents et des amis. Et ce guide, voilà, il avait la peau toute fripée par le soleil, mal rasée, mal coiffée, un peu un taiseux. Voilà, il tire un peu bourru, voilà, bourru, taiseux, voilà, pas très sympathique, pas très jovial. Mais en fait, c'est un cliché de guide assez classique, ce genre de personnage. Et du coup, je ne me suis pas dit « ouais !» Je vais faire ça quand je serai grande. Il ne m'a pas du tout donné envie, il ne m'a pas du tout inspiré. Et accessoirement, les gens avec, du club où j'étais, voilà, on était 4 jeunes d'à peu près mon âge. Un des garçons était plus fort physiquement que moi, il allait plus fort en ski, mais il n'était pas très bon en escalade. Mais en attendant, il était plus investi dans le club et il était présenté par les dirigeants du club comme l'espoir du club, comme quoi lui, il allait sûrement aller devenir guide et passer les diplômes d'initiateur, etc. Et moi, il me regardait en mode... ouais, c'est sympa ce que tu fais. Je pense qu'ils étaient loin d'imaginer, moi, la première que je ferais tous les diplômes et toutes ces expéditions dans le monde entier. Je leur en veux pas du tout, mais tout ça pour dire que j'inspirais pas confiance, ça c'est sûr. Donc non, j'étais pas du tout approchée dans ces métiers-là. Par contre, je savais que je voulais être dehors et avoir un métier ou être dehors. Donc je me suis dit, prof, voilà, déjà comme mes parents, et puis comme ça, j'aurais mes vacances pour aller grimper. Donc je me voyais bien prof de maths. Et là, je pense que l'année qui a vraiment tout déterminé, qui a vraiment lancé ma carrière, c'est que du coup, après ma première à 17 ans, je suis partie un an habiter aux États-Unis à Boulder, dans le Colorado. Donc, mes parents m'ont inscrite dans une Student Travel School, c'est une STL, c'est une association d'échange pour les mineurs. Et du coup, l'association m'a inscrite au lycée, ils m'ont trouvé une famille d'accueil gratuitement. Donc, du coup, ça ne coûtait pas plus cher qu'une année à l'université. Les parents, ils ont bien calculé. Hein. Et c'était une bonne affaire. Et du coup, ça, de partir un an aux États-Unis. Donc, avant les États-Unis, je me disais, oh, prof de maths, les maths, c'est facile, j'aime bien. Ça ne va pas me demander trop d'efforts. Et puis, comme ça, j'aurai les vacances pour grimper. Et puis, en fait, en arrivant aux États-Unis, il y a un état d'esprit qui fait que là-bas, je ne sais pas comment dire, la France, les Français, on est un petit peu complexés. On est un peu formatés. On se met beaucoup de barrières mentales. Et les Américains, alors, beaucoup moins. Le Yes Weekend, mais ça n'existait pas encore parce que Barack Obama n'était pas encore au pouvoir, c'était l'époque des Bush, mais c'était vraiment ça. Tu sens que là-bas, il faut tenter, il faut oser et que même réussir, et que même, pardon, échouer, en fait, c'est bien. Ça veut dire que tu as essayé et ça, c'est la classe. Alors qu'en France, si tu échoues, ça va être oui, mais on te l'avait dit, en même temps, tu t'attendais à quoi? Et là, vraiment, ça m'a dit, non, mais en fait, prof de maths, je sais que je peux le faire. Donc, il n'y a aucun intérêt à le faire quasiment. C'est pas ça, zéro intérêt de le faire. Donc, il faut que je fasse un truc qui me mette le challenge. Et puis, au pire, je ferai prof de maths parce que je sais que ça, je peux le faire. Mais du coup, il me fallait plus. Quoi. Donc, j'ai fini cette année aux États-Unis. Je suis rentrée en France, il fallait que je passe ma terminale. mais j'étais remontée à bloc, j'avais 18 ans et je parlais couramment l'anglais, donc déjà à partir de là, tu comprends le monde, tu sors de ta campagne de Haute-Savoie et tu comprends le monde entier, et tu as l'impression que bah ouais, t'es invincible, t'es invulnérable et t'as l'impression que t'as le monde à tes pieds, que tu peux tout faire. Ça m'a vraiment regonflé à bloc. Je pense que cette année aux États-Unis, ça a été déterminant dans le sens où je me suis dit, ouais, en fait, non, ne fais pas ce que tu sais, ce que tu vas réussir, fais plus. Mmh.
C'est ça, c'est la zone de confort. En France, on nous pousse à rester dans la zone de confort et surtout pas prendre de risques. Et c'est vrai que dans les autres pays, c'est en l'inverse. Tu veux tenter un truc, bah vas-y, essaye, tu verras bien. C'est tout à fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé alors après ? Donc, tu es revenu en France, tu as fait ta terminale. Comment tu as décidé de ton orientation ? Est-ce que tu as suivi des études ? Comment ça s'est fait après ?
Du coup, j'ai souffert à finir ma terminale scientifique dans un lycée privé à côté de chez moi. C'était vraiment là. C'était vraiment dur. Après une année à l'autre bout de la planète, à 17 ans, je suis partie. Hein, 12 mois à l'autre bout de la planète, loin de mes parents. Ouais. Là, c'était hyper dur. Mais bon, voilà, passe ton bac d'abord. D'abord, c'est après, on verra. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait 2 mois de petit boulot. Comme j'avais 18 ans, quand je suis rentrée, j'ai travaillé 2 mois en petit boulot en intérim à l'usine. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, bon, ça, je voulais pas le faire et que je voulais faire un plus. Et donc, j'ai quand même réussi à passer mon bac. Et après ça, bah, du coup, au lieu de m'inscrire en fac de maths, je me suis inscrite en fac de langue. Alors là, c'était un grand débat avec mes parents parce que comme j'étais bonne dans les matières scientifiques, le syndrome de la bonne élève veut que déjà, tu prends allemand en 6e, ensuite, tu prends latin en 5e, ensuite, tu continues avec ta seconde générale et ta première S, ta terminale S, parce qu'avec un bac scientifique, tu peux tout faire. Alors que moi, j'avais vraiment envie de tout sauf faire des grandes études, mais ça va poursuivre jusque-là. Donc là, je me retrouve en terminale, bah, faut que je fasse des études de toute façon, sinon ça ne me sert pas à grand-chose, un bac terminale scientifique. Et donc, je négocie quand même avec mes parents de pouvoir faire des langues étrangères. Parce que ma maman, elle voulait que je fasse une école d'ingénieur en se disant, bah, c'est quand même dommage de ne pas mettre à profit tes compétences. Et en France, il faut passer des diplômes. Si tu n'as pas des diplômes, tu vas avoir des compétences. Ça ne sert à rien. Passe des diplômes, passe des diplômes. Elle me l'a répété, Serine, je ne sais pas combien de fois. Et moi, je voulais, c'était grimpé. Alors, mon papa, il m'a dit, bah, dans ce cas-là, bah, passe ton monitorat d'escalade. Et là, c'est vraiment rigolo, c'est que ma maman, elle voulait absolument que je passe des diplômes parce que le monde professionnel, elle me dit, en plus, pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué. En plus, si tu vas travailler dans le sport, mais c'est encore plus compliqué, passe des diplômes. Elle en savait quelque chose. Elle voulait être entraîneuse de kayak dans les années 80, autant dire que c'était quasiment impossible. Et moi, je lui avais dit à 18 ans, mais maman, c'est bon, quoi, le sexisme, c'est fini, c'était à ton époque. Nous, il n'y a pas de souci. On a le droit de vote, on a le droit à l'avortement, on a gagné tous les combats, maman. Tout va bien là, c'est bon, détends-toi, je ne vais pas être victime de sexisme dans le monde du travail ou je ne sais pas quoi, je ne vois pas où est le problème. Ouais, voilà, j'étais vraiment un monstre naïf, mais je pense que ça m'a beaucoup servi par la suite finalement. Je me suis mis moins de barrières mentales, je ne me suis pas dit que je ne pourrais pas ou quoi que ce soit, parce que pour moi, je ne voyais vraiment sincèrement pas où était le problème à 18 ans. Bon, plus tard, j'ai compris maintenant aujourd'hui qu'il y avait effectivement des choses quand même qui faisaient que les petites filles et les petits garçons n'avaient pas tout à fait les mêmes parcours professionnels. À ce moment-là, je n'avais pas encore toutes ces informations. Et mon papa me dit, mais bah, du coup, va faire monitrice d'escalade. Et je lui dis, mais attends, papa, les moniteurs d'escalade, je connaissais quelques-uns. Ils étaient costauds, ils étaient torse-nu au pied de la falaise, avec les muscles saillants, là, avec des grandes bouches, en train de raconter leurs exploits dans leur dernière voie d'escalade et tout ça. Et je ne me voyais pas du tout. J'arrivais pas du tout. C'est comme le vieux guide, là. J'arrivais pas à m'identifier du tout à ces moniteurs d'escalade grande gueule. Et je me suis dit, wow, quand même, c'est un peu ambitieux. Et j'ai regardé les prérequis pour pouvoir accéder à la formation. Et en fait, les prérequis, mais j'avais largement le niveau. C'était bidon. Et j'avais déjà suffisamment d'expérience et tout ça. Mais ouais, je ne me représentais pas. Même maîtrise d'escalade, j'avais déjà du mal à me représenter cette profession. Ouais. Bon, alors, je ne suis encore pas du niveau du guide encore là. Et encore moins du secouriste. Et donc, finalement, bah, je commence la formation de maîtrise d'escalade à 18 ans. Je finis à 19 ans. Et entre-temps, et puis en parallèle, du coup, j'ai suivi des études de langue étrangère à la fac de Grenoble pendant 2 ans. Et la 3e année, je suis repartie en Erasmus parce que vraiment, mon année à l'étranger, ça m'a fait tellement du bien là, quand j'étais en terminale, que du coup, j'ai voulu refaire mon année de licence à l'étranger. Je suis partie étudier en tant qu'Erasmus en Allemagne. Donc voilà, et que j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée du coup. Mais aucun rapport avec ce que je vais faire après. Mais voilà, c'était un deal familial. Une fois que j'ai fait mes 3 ans, ils m'ont dit, ouais, bon, bah écoute, c'est bon, au pire, tu feras prof d'anglais. Si tu veux aller faire tes trucs de montagne maintenant, vas-y. Et je suis allée m'installer à Chamonix.
Ok, c'est... donc tu avais ton backup. Et ah, donc, tu as fait ta licence, tu as passé ton monitorat. Donc là, tu avais quoi, 21, 20, 22 ans? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tu as commencé à. Comment tu es arrivé au secourisme, en fait? À quel moment c'est arrivé dans ta vie?
Attends, je ne sais pas, je suis arrivée au secourisme, j'avais 30 ans.
Ah ouais, voilà.
Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça.
Alors les
Et du
étapes.
coup, ouais, il y a beaucoup de barrières mentales à faire tomber avant d'arriver jusque-là. Il faut y aller
Ouais.
par étapes. Bien, même si je faisais la maline devant ma maman, les barrières mentales, en fait, je les avais déjà. C'est ces barrières-là qui ont fait que j'hésitais à devenir monitrice d'escalade et que je n'ai pas tout de suite pensé à être guide, par exemple.
C'était
Donc
quoi
là, à
tes
ce moment-là, j'ai fait
barrières?
ma licence.
C'était quoi tes barrières mentales à ce moment-là?
Bah, c'est ces représentations-là, j'avais aucun modèle. Pour moi, le moniteur d'escalade, c'était des mecs hyper musclés, torse nu, bronzés, avec des grandes gueules. Pour moi, un guide, c'était un mec un peu bourru, mal croisé, mal coiffé, tout fripé, pas très sympathique. C'était moi, c'était ça, ces modèles-là. Je n'avais pas d'autres représentations de ces métiers-là. Et du coup, c'était quasiment impossible de me projeter, de me dire, waouh, ouais, j'ai envie de faire ça un jour. Pour moi, c'était complètement inaccessible.
D'accord,
C'est
donc
ça,
c'était
c'est
ouais,
pareil à moi.
des barrières de modèle, d'un manque de modèle et d'identification. Et donc après ta licence, qu'est-ce que tu as choisi de faire?
Du coup, à la fin de ma licence, j'ai rejoint l'équipe nationale d'alpinisme féminine. Avant ça, il y avait une équipe nationale d'alpinisme de haut niveau, mais c'était mixte en 20 ans et il y a eu 80 alpinistes qui sont passés, il y a eu une femme. Donc ils se sont dit, ouais, c'est peut-être pas non plus super génial, génial notre projet mixité. Alors du coup, ils ont créé une équipe féminine pour encourager les femmes à pratiquer l'alpinisme à haut niveau. Et juste à ce moment-là, bah, j'ai un bon niveau en escalade, je viens de finir mon diplôme, j'ai déjà fait un petit peu d'alpinisme avec le club à côté de chez moi. Et donc je postule et donc je suis prise. Et là, c'est vraiment génial parce que tout à coup, j'ai sept copines, parce que c'est des groupes de 8 femmes, j'ai sept copines avec qui faire des grandes courses, partir en expédition. Et ça, c'est vraiment super. Et à partir de là, ça m'a permis d'être. Donc on a fait une première expédition tout ensemble au Pakistan. Au Pakistan, pardon. Et puis, il y en a plusieurs qui étaient de Chamonix, donc elles m'ont aidé à m'installer à Chamonix. C'est assez compliqué de trouver un pied-à-terre à Chamonix en même temps que tu trouves un travail, etc. C'est très cher la vie là-bas. Et donc, j'ai fait des petits boulots pendant un an à Chamonix. Avec les filles, on est parti au Pakistan. Et cette équipe nationale, donc l'ENAF, l'équipe nationale d'alpinisme féminin, qui existe toujours, ça m'a permis d'être repérée par l'armée française. Et moi, je ne savais même pas que ça existait. Ce truc-là, c'est le groupe militaire de haute montagne. C'est le groupe d'élite de l'armée française en matière d'exploration, de haut niveau et d'expédition lointaine. Et il y a une
D'accord.
dizaine d'alpinistes militaires qui sont payés à s'entraîner toute l'année et partir en expédition. Ouais, si, si, ça existe. Oui, ça existe. C'est incroyable. Donc, je ne connaissais pas. Et
Génial.
là, le commandant, Thomas Faucheur, il s'est dit, mais depuis que ça existe, donc ça faisait à peu près 40 ans que ça existait, il y a eu 80 grimpeurs à peu près qui sont passés, il n'y a jamais eu de femmes. Mais maintenant qu'il y a une équipe nationale, il y a des jeunes femmes qui ont l'air d'avoir envie de faire de l'alpinisme de niveau, on pourrait proposer une femme, ça pourrait rebooster la communication du groupe, montrer qu'on est un peu à la page au niveau de l'évolution de la société, et ce genre de choses. Et donc, ils nous ont proposé à toutes les filles du groupe. Les autres, je pense qu'elles ont vite vu qu'il y avait. Que ça allait être compliqué quand même de rejoindre un groupe d'élite de l'armée française dans les chasseurs alpins. Elles n'ont pas postulé. Il y a Karine Ruby, donc une championne de snowboard là, qui est décédée en 2009, je crois. Il y a Karine Ruby qui avait postulé, mais bon, en vrai, bon, elle n'avait pas froid aux yeux. Hein. Bon, tu deviens pas championne olympique et championne du monde par hasard. Mais elle n'avait pas froid aux yeux. Elle avait été voir, elle s'est renseignée, puis ça n'intéressait pas plus que ça parce qu'en vrai, elle n'avait pas vraiment besoin de travailler. Donc. Je ne vois pas pourquoi elle
D'accord.
s'est rentrée dans l'armée pour faire de l'alpinisme. Et tant mieux pour elle. Et non, moi, par contre, il fallait que je gagne un peu ma croûte. Donc, je suis quand même allée voir, mais ça me faisait super peur de rejoindre un groupe d'élite. Il n'y avait jamais eu de femme avant moi. Je serais toute seule dans le groupe au milieu de 10 alpinistes. Alors, est-ce que j'aurais eu le niveau? Est-ce qu'en plus, l'armée, j'avais une image assez stricte et assez sévère. Moi, à ce moment-là, j'ai un piercing dans le nez, j'ai une dreadlock dans le cou et je mets des pantalons bariolés africains pour faire de l'escalade. Donc, je ne suis pas vraiment. Vrai, formaté pour rentrer dans les chasseurs alpins. Mais quand même, là, quand même, il y a l'idée de pouvoir être grimpé à faire de l'alpinisme et partir en expé. Bon, bah, même s'il faut vendre un peu son âme au diable et rentrer dans l'armée française, je t'avoue que c'était quand même hyper tentant. Donc, j'ai quand même postulé, même si j'avais vraiment la trouille. Et ils ont vu qu'il y avait du potentiel, que j'étais super motivée et que j'allais tout donner pour montrer de quoi j'étais capable. Donc, j'ai été prise et je suis entrée donc, en 2008 au groupe militaire de haute montagne. Et là, vraiment, ça a été, c'est allé au-delà du rêve américain, on va dire, parce que là, j'avais pas juste du temps pour grimper. En fait, là, j'étais payée à grimper. J'étais alpiniste professionnelle.
C'est génial. Bravo. Franchement, c'est incroyable. Là, tu as complètement éclaté tes barrières, du coup. Et tu as fait une première, parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas d'autre avant. Donc, c'est assez
Il n'y en avait pas eu avant. Il n'y en a toujours pas eu depuis.
Il n'y en a pas eu.
Alors, je pense que quand je demande aux différents commandants, depuis, il y a eu 3 commandants différents. Je suis partie en 2012. Et à chaque fois, ils m'ont dit « Oui, mais bon, on n'en a pas trouvé. Elle ne postule pas. On ne voit vraiment pas qui on peut prendre. » Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup cherché. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle. Ça a été possible grâce au commandant. Donc, on va dire ce commandant-là, ça s'appelle une personne ressource. C'est-à-dire que lui, voilà, comme mon papa qui me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas maîtrise d'escalade ?» Là, c'est personne ressource. Ce commandant-là qui se dit « Mais pourquoi pas prendre une femme ?» Là, personne ressource. Voilà, il y en a des personnes ressources. Il y a des personnes qui sont plutôt nuisibles. Et cela, il faut arriver à les éviter. Mais des personnes ressources, il y en a aussi. Et de plus en plus, parce qu'il y a des femmes avant moi qui se bagarrent pour pouvoir rentrer dans ces institutions. Avant, il n'y avait pas de femmes à l'armée. Donc forcément, rejoindre un groupe d'élite en alpinisme, c'était impossible. Et depuis la professionnalisation et l'apparition des femmes dans les années 80-90, ça commence à s'envisager et à être possible. Et voilà, petit à petit, les femmes, elles poussent des portes. Et petit à petit, elles peuvent pousser des plus grandes portes. Il ne faut pas rater les opportunités, pardon. Parce que les fenêtres de tir sont quand même très, très courtes.
Ouais. Bah là, en plus, tu as rencontré vraiment la bonne personne au bon moment, entre guillemets, parce que lui aussi, il avait cette volonté de son côté. Et c'est peut-être pas la volonté des autres commandants. Peut-être qu'ils sont moins sensibles à cette question ou que ça les intéresse pas du tout. Mais tu es resté combien de temps, du coup, dans ce groupe-là?
Ouais, non, mais là, tu as tout dit, parce qu'en fait, ce commandant, il est resté 3 mois. Et après, il a été muté dans un autre département de l'armée. Donc, effectivement, il a disparu et le créneau était très court. Et effectivement, je suis arrivée vraiment au bon moment et j'ai eu beaucoup de chance. Et une fois qu'il est parti, et ben, comme tu l'as très bien dit, ils n'étaient pas forcément tous pour que je vienne au groupe militaire de haute montagne. La plupart, en fait, c'était clair que j'ai été prise en partie parce que j'étais une femme, parce que je n'avais pas le niveau technique des meilleurs hommes en alpinisme. Les meilleures femmes en alpinisme, même déjà à 20 ans, les meilleurs hommes en alpinisme sont bien plus forts que les meilleures femmes. Il y a déjà des écarts qui se creusent, qui sont énormes. Mais en fait, ces écarts, ils datent de bien avant. Je me souviens, en quatrième, je m'étais fait la réflexion en quatrième. Moi, j'étais réglée, j'étais formée, j'étais grande, j'étais pas aussi costaud qu'aujourd'hui, mais presque. Et je courais vite. Et je me disais, mais c'est quand même pas cool, parce que les garçons qui sont dans ma classe, qui n'ont pas passé la puberté, qui m'arrivent à l'épaule, qui ressemblent vraiment à des garçons, quoi, à des enfants, c'est pas du tout des hommes, ils doivent courir plus vite pour avoir la même note que moi en sport. Mais ils n'ont juste aucune chance.
Ouais, ouais, c'est dès le début, en fait.
Là, c'est une énorme différence quand tu arrives à 20 ans. Et ben forcément, il y a un écart qui se creuse énorme. Les barèmes sportifs chez les filles, ils sont trop bas, ils sont trop faciles. Il faut arrêter de les prendre pour des neuneux. Là, elles peuvent courir plus vite, les filles, c'est sûr. Hein. Ouais, et donc, vrai. Bref, à 20 ans, voilà, j'étais la meilleure alpiniste femme du moment. En tout cas, vraiment parmi les meilleures pour mon âge. Et j'étais dans l'équipe nationale d'alpinistes. Il n'y en avait vraiment pas 10 000 des alpinistes de mon niveau. Et j'étais la meilleure. J'étais quand même beaucoup moins forte que les meilleurs des hommes. Et tout ce que les alpinistes du GMHM ont retenu, c'est que j'avais été prise juste parce que j'étais une femme. Bon, j'étais la meilleure des femmes. Mais le raccourci, il est vite fait de dire que oui, mais elle a été prise juste parce que c'est une femme. Donc, j'ai été victime de discrimination positive. Oui, il y a eu discrimination positive, le fait de me prendre au GMHM, parce que j'étais une femme et j'avais un moins bon niveau que les meilleurs hommes de ce moment-là. Mais en fait, j'en suis devenue victime parce que ça n'a pas été compris par les autres alpinistes que j'étais là parce que j'étais la meilleure des femmes et qu'il y avait peut-être du potentiel pour rejoindre leur niveau. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai rejoint leur niveau technique. Mais alors ça, du coup, c'est très compliqué parce que si t'es aussi forte qu'eux, ça va. Mais si t'es plus forte, alors là, ça va plus. Mais en même temps, si t'es pas plus forte, bah du coup, t'es pas légitime pour être dans le groupe. Ah bah, c'est hyper compliqué. Bah, du coup, faut leur mettre un peu des buts en escalade, mais pas trop non plus. Parce que, voilà, tu vois, sinon après, de toute façon, on te rappelle incessamment. Même si tu fais tes preuves, même si tu montres que t'es capable, de toute façon, ça va toujours revenir. Ouais, mais à la base, elle a été prise juste parce que c'est une femme. Et voilà, ça, c'est voilà. Quand t'es victime de discrimination positive, la discrimination positive, ça peut bien se passer, mais on peut aussi en être victime et voilà, c'est assez subtil, quoi. Donc, je suis restée de 2008 à 2012, j'ai demandé à partir parce que là, il y a trois alpinistes qui se préparent à partir du groupe qui se prépare à partir faire une grande face nord. Et moi, je leur dis, du coup, là, on est quatre. Vous êtes organisés tous les trois pour partir une grande face nord. Et du coup, moi, je fais quoi, en fait? Ah, écoute, attends-nous là. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, promis, hein, tu viendras avec nous. Hein. Donc là, j'ai compris que de toute façon, j'allais être de trop. J'en ai fait plusieurs expéditions. J'ai pu partir en Himalaya. Je suis montée à 7000 mètres. J'ai pu partir sur le Mont Logan, le plus haut sommet du Canada à 6000 mètres. On est parti en Antarctique. On a fait de la cascade de glace en Suisse. On a fait la traversée des Alpes de Lingen avec la Pulka. Un peu au printemps, là, en ski de rando. Enfin, c'était vraiment l'occasion de faire plein de trucs vraiment génial. Mais bon, j'ai quand même compris qu'à chaque fois, je ferais partie de l'équipe B. À chaque fois, je suis sur le banc de touche. Et du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien d'insister. En plus, j'avais mon supérieur hiérarchique qui me faisait des propos, qui me tenait des propos quand même, carrément à connotation sexuelle. Hein. Il se baladait en slip devant moi dans le vestiaire. Il me disait, d'accord. Mais tu sais, les femmes, elles viennent à l'armée, c'est juste pour se faire sauter. Hein. Si jamais tu as des envies, enfin, c'est normal. Hein. Tu sais, puis tu as de la chance d'être la seule au milieu de plein d'hommes. Tu as le talent d'avoir du choix, mais j'aimerais trop être à ta place. C'est super. À ce moment-là, j'ai 24 ans et lui, il a 15 ans de plus que moi. Et c'est mon supérieur hiérarchique. Et ce qui s'est passé, c'est quand même très grave. Mais moi, j'ai pas compris la gravité des faits. Et ouais. Quand j'en parlais à mon compagnon à l'époque, il me disait, non, mais ça va. Déjà, t'es payé à grimper. T'as pas à te plaindre. Mais bon, il est pas resté devant lui. Hein.
Mais c'est un délire.
Donc voilà, je suis restée 3 ans dans ce groupe d'élite, dans ce métier de rêve. J'ai été obligée de partir.
Mais il y a quelque chose que t'as dit qui ressort assez régulièrement, c'est le fait de devoir faire ses preuves encore plus pour prouver qu'on est au même niveau. Et en plus, tu dis que tu étais en suradaptation parce qu'il fallait non seulement que tu fasses encore plus tes preuves, mais pas trop non plus. Donc, il fallait que tu sois encore plus intelligente pour cerner le groupe et leur psychologie et trouver ta place sans en faire trop. Mais c'est tout un art.
C'est épuisant. Et en plus de ça, tu portes une grosse armure parce que tu n'as pas envie que ton supérieur te tienne des propos à connotation sexuelle toute la journée. Donc, tu portes une énorme armure pour te blinder contre ces propos qui te mettent vraiment super mal à l'aise. Et le soir, tu n'arrives pas forcément à l'enlever quand tu rentres chez toi. Donc, cette armure, tu la reportes toute la journée. Et tu essayes, comme tu dis, de subtils dosages, de montrer que tu sais faire, de faire tes preuves, mais pas trop, parce que sinon, ça crée des jalousies. Et du coup, derrière, oui, mais elle est là juste parce que c'est une femme, de toute façon. Donc, c'est normal qu'elle soit plus forte. Enfin, bon, bref, c'est très subtil, ouais. J'ai 3 ans à l'année et je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai eu un métier de rêve. Je vais toucher mon métier de rêve idéal, mais ça va pas durer si longtemps que ça. C'est encore trop compliqué. Et j'espère que pour les suivantes, ce sera mieux. Mais quand je vois que 12 ans plus tard, ils ont toujours pas trouvé de femme pour me remplacer, j'ai peur que ça n'arrivera plus.
Est-ce que tu aurais des conseils justement à donner pour les femmes qui sont dans des environnements comme ça que d'hommes et qui sont face à ce genre de remarques? Comment toi, tu as fait pour tenir tout ce temps-là? Est-ce que tu prenais sur toi? Est-ce que de temps en temps, ça a explosé? Comment tu gérais tes émotions et tes réactions?
Et ben justement, je n'ai pas trop géré parce que je suis partie.
Ouais.
En fait, au début, il y a un moment où tu as envie de te bagarrer, tu as envie de montrer, tu as envie de montrer que tu es capable. Et puis, surtout, tu aimes ton job quoi, parce que tu es quand même payé à faire de l'alpinisme, ce qui est un peu le truc ultime. Mais il y a un moment, c'est plus supportable. Il faut partir avant de devenir dingue, avant de perdre ses moyens, avant de se décriminaliser totalement, Non, il vaut mieux partir. Je pense qu'il faut, là, dans ces environnements aussi... dans des environnements aussi nuisibles, tu peux pas. Il y a un moment, tu peux pas. Il faut pas se dire... faut pas se dire, allez, je tiens bon, je tiens le cap, allez, je suis pas une mauviette, non, mais c'est bon, je peux le faire. Non, il y a un moment, c'est juste pas possible. Ces environnements-là, ils sont juste trop durs et il y a... La société, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Et donc, il faut attendre un petit peu et peut-être retourner dans des environnements un petit peu moins difficiles. Du coup, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans et demi, je suis partie et j'ai demandé à devenir instructeur à l'école militaire de haute montagne. Donc ça, c'est toujours à Chamonix. C'était le bâtiment juste à côté. Et là, mon métier, c'était d'emmener les chasseurs alpins en montagne et de leur apprendre les techniques de l'alpinisme et de ski en hiver. Et donc là, j'étais caporal chef. Et moi, j'emmenais les stagiaires en montagne. Donc j'emmenais des soldats, j'emmenais des gars qui revenaient d'Afghanistan, là, des gros costauds et qui avaient fait la guerre. Et il fallait que je leur montre comment marcher avec des crampons sur un glacier, comment descendre une pente de neige en ski hors piste, en ski de randonnée. Et ce genre de choses. Et c'était trop bien. Mais là encore, c'était quand même très compliqué. Et j'ai tenu 3 ans et demi. Et à un moment, t'es juste épuisé, quoi, de cette ambiance-là, et c'est peut-être qu'il y a mieux à faire, quoi. La société, elle n'est pas prête, il faut y aller par étapes. Mais là, j'étais quand même vraiment dans le dur, hein. J'étais dans les chasseurs alpins, instructeur à l'école militaire d'haute montagne. C'est un poste qui a été créé en 1930. Moi, je suis arrivée en 2012, il a fallu 80 ans pour qu'il voie y arriver une nana avec des crampons. J'avais 25 ans, j'étais guide d'haute montagne à ce moment-là, j'étais quand même plutôt mignonne, alors que la plupart, ils avaient 30, 35 ans. Ils étaient là, mais c'est quoi cette OVNI? Ils étaient juste pas prêts.
Ouais, j'imagine que de leur côté, ça devait être surprenant aussi, surtout s'il n'y en a pas eu d'autres depuis. Et du coup, dans ce nouveau travail d'instructrice, ça s'est mieux passé au niveau du rapport avec les hommes? Est-ce qu'ils respectaient?
C'était beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas du coup cet esprit de haut niveau et de compétition entre les instructeurs. On était une trentaine d'instructeurs. Avec les instructeurs, super, super ambiance, super équipe. J'ai adoré être sur le terrain, j'ai adoré être avec mes stagiaires. J'ai vraiment passé des super moments. Après, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Comme je voyais cette équipe qui était vraiment bonne ambiance. Bah, en tant que femme, toi, tu as envie de faire partie du groupe aussi parce qu'on est un animal social et on n'a pas envie d'être toute seule dans notre chambre d'hôtel à chaque fois qu'on est en déplacement. Et voilà, on a envie aussi de discuter et de rigoler avec les autres. Et du coup, il y a un phénomène qui s'est passé, c'est le phénomène, moi j'appelle ça de bonhomisation. C'est-à-dire que pour t'intégrer au groupe, eh ben, tu te comportes comme un bonhomme et tu dis des blagues dégueulasses et tu dis non, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas possible quoi. Mais t'es entouré de bonhommes qui font que des blagues de cul toute la journée et en plus, bah, c'est assez drôle, franchement. Et moi je trouvais ça drôle. Et du coup, j'avais envie d'être pote avec eux et du coup, tu te comportes comme eux, tu t'habilles comme eux et tu parles comme eux et non. Et non, non. Alors déjà, on ne peut pas pisser debout techniquement, ça ne va pas le faire. Mais on peut quand même pisser juste à côté d'eux. Moi, ça ne me posait aucun problème. Juste, j'étais accroupie, j'étais debout, ça, c'est pas un souci. Mais non, vraiment, je me suis perdue à ce moment-là. Je me suis perdue dans ma féminité profonde. Parce qu'être une femme, ce n'est pas mettre des mini-jupes et faire des petites blagues délicates et ça sent bon quand on pète. Ce n'est pas ça, être une femme. C'est cette féminité profonde, c'est quelque chose de plus subtil et ça met du temps, je pense, à la développer parce qu'en plus, dans notre société où c'est pas forcément très valorisé, c'est compliqué d'aller s'intéresser à son féminin, l'entrer en avant. Et là, je me suis un peu perdue à ce moment-là, ouais, dans ce phénomène que j'appelle de bonhomisation.
C'est quand même une sacrée expérience. Donc, en cumulé, tu es restée 7 ans. Donc, tu as fait 3 ans et demi de premier, 3 ans et demi de ce poste-là. Et après, tu as décidé d'arrêter ou parce que tu avais trouvé quelque chose de mieux ou tu en avais marre? Comment ça s'est passé?
Et ben, au bout de 3 ans et demi donc, d'instructeur, j'avais super ambiance avec les autres instructeurs, avec les gens sur le terrain. Mais les officiers, donc ceux qui nous commandaient mais qui n'étaient pas forcément avec nous sur le terrain, ils avaient une représentation de moi, je pense, assez faussée. Et ils me disaient, mais comment ça se peut que... Ils pensaient que j'allais pas. Au début, ils ne voulaient même pas m'embaucher parce qu'ils pensaient que j'arriverais pas à m'imposer aux stagiaires, face aux stagiaires. Et au niveau de la sécurité, j'arriverais pas à gérer parce que j'avais 25 ans, les stagiaires avaient 30-35 ans, ils étaient plus gradés que moi, j'étais que caporal chef. Et j'allais sûrement emmener des officiers en montagne, des capitaines, voilà, des lieutenants. Donc déjà, ils ne me faisaient pas confiance sur ma capacité à gérer un groupe en montagne. Alors que j'avais les diplômes, hein. Il a fallu que ce soit les ressources humaines de l'armée française à Paris qui leur disent « Non mais attendez, on est en train de lui payer son diplôme de guide d'haute montagne, elle a un lien au service, elle est obligée de rester dans l'institution encore 6 ans. » Et là, elle a quand même le diplôme qui correspond pile poil au métier d'instructeur montagne. Donc juste, vous lui faites un contrat de 5 ans en fait, vous n'avez pas le choix. Au début, ils ne voulaient même pas me prendre, tellement ils ne me faisaient pas confiance pour ce rôle-là.
Okay.
Et donc ça a été compliqué parce que du coup derrière, ils ne me faisaient pas confiance quand j'ai demandé à m'entraîner pour le DE, le diplôme de monitorat de ski alpin. J'ai commencé le slalom à 29 ans pour passer ce diplôme en complément du métier de guide de montagne. Ils m'ont dit non, toi, tu ne peux pas t'entraîner en service. Tous les ans, il y avait une compétition d'escalade militaire championnat de France que je gagnais à chaque fois parce que bon, j'étais quand même bien m'entraîner à grimper. J'avais un bon niveau d'escalade. Et la dernière année, ils ont dit non, tu ne peux pas t'inscrire parce que quand tu y vas tous les ans, tu gagnes à chaque fois. Ça suffit, il faut laisser un peu la place aux autres. Alors que ma place, elle était attitrée. Je piquais la place de personne. J'étais gagnante du titre. Donc, ils m'ont interdit de participer à la compétition. J'ai demandé à passer donc caporal chef un peu plus de SMIC. T'es à 1300 euros, donc ça va pas chercher très loin quand t'habites à Chamonix. T'arrives à 28, 29 ans, tu commences à te dire bon, c'est sympa, mais le SMIC à Chamonix, c'est un peu juste. Est-ce que je pourrais pas passer sous-officier et monter en grade de sergent, sergent chef? Et là, ils m'ont dit que j'avais pas de potentiel. Alors qu'avec ma licence à l'université, j'ai le niveau d'études pour me présenter au concours d'officier de l'armée française. Donc ça, je me suis dit, ouais, ils veulent quand même vraiment pas que je sois là. Je vais trouver un plan B. Et donc, j'ai eu une petite annonce. Voilà, là, tu mets tous tes sens en éveil, tu regardes toutes les infos. Qu'est-ce que je pourrais faire pour travailler en montagne et tout en ayant quand même un salaire un peu intéressant? Là, j'étais à 1300, donc il fallait que je trouve un truc où je sois en dessous, quoi. Donc, je voulais pas faire une guide d'haute montagne indépendante. Parce qu'en tant que femme, j'avais peur. Bah déjà, j'avais peur de la blessure. Donc, quand t'es guide indépendante, t'es payée à la prestation, à la journée. Donc, tu gagnes entre 350, 450 euros par jour pour emmener les gens en montagne. Donc, c'est chouette. Mais voilà, si tu te blesses la cheville au mois de juin, ta saison d'été, elle est foutue. Mmh. Et là, derrière, c'est compliqué parce que les indemnités journalières, les assurances et tout, ça rembourse pas complètement. Donc, j'avais peur de la blessure. S'il fait vraiment pas beau, si avec ces gros changements climatiques, on sait jamais trop, du coup, tu peux pas bosser. Donc là, pareil, tu gagnes pas d'argent. Et si tu fais un bébé, et j'étais pas vraiment dans l'optique bébé encore à cette époque. Hein. Là, j'ai 28, 29 ans. Pour moi, les bébés, c'est un truc là. C'est pour les autres, c'est dans longtemps. Et en fait, ça arrive très, très vite. Hein. Mais du coup, je n'étais pas dedans, mais je me disais, bon, quand même, si jamais, ça veut dire si tu es travailleuse indépendante, et ben, quand tu fais ton bébé, là, tu perds un an de ton métier de guide. Pendant un an, tu ne vas pas gagner d'argent. Je ne sais pas comment elles font les autres, mais moi, ça me semblait trop précaire comme statut. Je ne voulais surtout pas faire guide indépendante. Donc, j'avais commencé le ministère de ski alpin, mais voilà, je n'avais pas encore tout à fait fini. Pour compenser et faire le métier de monitrice, ça, c'est moins exigeant. Tu peux travailler, même si tu es enceinte, tu peux exercer ce métier-là. Okay. Et puis finalement, j'ai eu une petite annonce comme quoi, à la police nationale, ils cherchaient des guides d'haute montagne. Alors là, j'étais quand même assez curieuse parce que je ne voyais pas ce qu'un guide d'haute montagne pouvait faire à la police nationale. Et j'ai découvert qu'il y avait des sections de secours en montagne assurées par la police nationale. Moi, je connaissais les gendarmes qui faisaient du secours en montagne, ouais. Parce que dans le massif du Mont-Blanc, c'est que les gendarmes qui font le secours en montagne. D'accord. Et en fait, il y a plein d'autres départements, c'est une semaine sur deux, c'est des policiers ou des gendarmes. Alors, la différence entre les policiers et les gendarmes, vite fait, hein, c'est de la culture générale, mais ce n'est pas du tout évident pour tout le monde. Les gendarmes, c'est en province et les policiers, c'est dans les grandes villes. Mais les deux, ils font la même chose. Ils remplissent des missions de police, protection des populations, parfois gendarmes, de la répression et des fois de la prévention.
C'est militaire en plus, les gendarmes.
Ils ont un statut militaire, mais leur métier au quotidien, c'est d'assurer les missions de police.
Ok.
Donc, moi, je ne savais pas que les policiers, ils pourraient recruter les guides de montagne. Donc, quand j'ai vu cette petite annonce, je suis allée me renseigner au centre de formation pour les secouristes en montagne qui se trouvait à Chamonix, que je n'avais jamais remarqué. Et je suis allée me renseigner là-bas, et là, pas le même accueil. Hein. Donc, pour la petite anecdote, je me présente, je sors de mon travail, je suis en uniforme de caporal chef, donc je suis tout en noir avec mes insignes. Et quand j'arrive au centre de formation des policiers, c'est un lieutenant qui m'accueille. Donc le lieutenant, il a deux barrettes horizontales. Donc là, moi, je vois deux barrettes horizontales. Après 7 ans d'armée, je me tends un peu. Hein. Donc, je claque mes respects, mon lieutenant, caporal chef poids de 20, instructeur de MHM. Je viens me renseigner pour la... Je vais m'enseigner pour la position de guide de montagne chez les polices nationales. Alors, il a complètement halluciné. Il m'a dit, non, mais calme-toi. Tout va bien. Il dit, ça se passe pas comme ça. Assieds-toi, on va en parler. Et je sais très bien qui t'es. De toute façon, t'es la seule femme à avoir fait tout ça. Je sais qui t'es. Il n'y a pas de souci. Wow. On va discuter. Et en plus, bon, accessoirement, pour ne pas gâcher l'entrée en matière, c'était un petit blond aux yeux bleus, très sympathique. Je me suis dit, ouais, là, quand même... ça m'a l'air pas mal. Et là, tout de suite, en fait, tu sens que t'es à ta place.
Ouais.
Tu vois. Okay. Il s'est rien passé avec le lieutenant, hein. Mais tu vois, salut. Tu sais pas qu'elle a de sens. Là, le gars, il te dit, mais vas-y, assieds-toi. Mais je sais qui t'es. Mais tu veux venir chez les mecs.
C'est vas-y, là, tu te sers un café. Voilà. Assieds-toi. Tu veux manger quelque chose.
C'est ça. Ah bah, je me suis inscrite le soir même. J'étais inscrite au concours de gardien de la paix. J'ai fait la formation à 30 ans et à 31 ans en sortie d'école. Et ben, j'ai intégré directement la spécialité secouriste CRS montagne. Donc voilà, si j'avais eu 20 ans, même si j'avais su que ce métier existait, j'aurais pas osé rejoindre la police nationale. Il m'a fallu ce passage par l'armée et démystifier ces institutions qui très masculines, qui font hyper peur aux femmes, à juste titre, parce que c'est quand même encore des institutions très masculines et très exigeantes, et c'est pas facile en tant que nana de se faire sa place. Mais voilà, quelques années, c'était vraiment une super expérience, et ce sera à faire, je referai. Et grâce à ça, ben, ça a pu démystifier aussi, donc plus tard, la police nationale. J'aurais jamais osé à 20 ans rentrer dans la police nationale, même si j'avais su qu'il y avait une spécialité montagne, parce que ça me faisait peur. Mais comme j'avais eu cette opportunité d'être vraiment payée à faire que de l'alpinisme avec l'armée, bah, du coup, ça a un peu démystifié tout ça. Et la police nationale, bah, finalement, c'est beaucoup plus cool que l'armée. Il y a 30% de femmes en police sur le terrain, en opération. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à l'armée, mais elles sont dans les bureaux ou elles sont à l'infirmerie. En police, il y a beaucoup de femmes, mais elles sont sur le terrain. Il y a 30% de femmes sur le terrain et elles sont vraiment indispensables pour que la boîte, elle tourne. Donc, c'est pas du tout la même ambiance, c'est des civils. Quand ils m'ont vu arriver, ils se sont dit non, mais super, on peut montrer que voilà, on est à la page, on suit l'évolution de la société et au niveau de mes supérieurs et de l'institution, il y a vraiment une volonté de mettre en avant les femmes. En plus, on a des soucis de recrutement. Tous les ans, il y a très peu de candidats qui viennent se présenter aux sélections pour entrer dans la spécialité montagne, parce que bah, ils ont l'impression que c'est vrai que c'est une spécialité exigeante, mais si tu te prépares correctement, tu te donnes les moyens, c'est carrément accessible. Et donc, du coup, bah, tous les ans, ça manque un petit peu de candidats. Et ils se sont dit, bah, après tout, si c'est des candidates qui viennent, ça nous va aussi. Hein. Il y en a très bien, il y en a quelques-unes qui font très bien l'affaire.
Donc,
j'ai vraiment senti un soutien de la hiérarchie, de mettre les femmes en avant, de moi être mise en avant. Parce que quand j'étais à l'armée, j'étais complètement invisibilisée. Okay. Il y a plein de petites anecdotes où on partait en expédition et c'était moi qui étais responsable de la caméra. Comme ça, tu es sûre que je n'étais pas filmée, vu que c'était à moitié filmée. Ah. Ou alors. Au début, ils voulaient pas que je fasse le défilé du 14 juillet à Chamonix. Okay. Parce qu'ils disaient que j'étais pas assez militaire, parce que j'avais pas vraiment suivi les classes. Je leur ai dit non, mais attendez, j'ai fait 10 ans de danse classique. Ça compte, non? Pied gauche, caisse claire, la chorégraphie, ça me connaît, c'est super facile. Bon, ça les a pas fait rire. Ça les a pas fait rire du tout. Mais bon, tu vois, finalement, à force d'insister, ils m'ont laissé faire le défilé du 14 juillet, mais ils voulaient même pas que je sois sur les rangs. J'étais invisibilisée, tu pouvais pas faire plus, quoi. Et si j'étais trop mise en avant, bah, tout de suite, oui, mais elle se la pète, elle se la raconte, alors qu'en fait, c'est un alpiniste comme les autres, elle ne fait rien de plus que nous. Je ne vois pas pourquoi on parlerait plus d'elle que de nous. Voilà, ça crée des jalousies, c'était assez compliqué. Ouais, et non, elle nous met en avant pour plein de raisons. Aussi parce que la police avait besoin de montrer que eux, ils remplissent leurs quotas. Il y a les quotas tout le temps.
Du coup, tu as été la première à faire ça?
Alors, j'étais la première à rentrer dans le secouriste CRS Montagne, mais en fait, ça aurait été compliqué de même de rentrer plus tôt parce que la première femme à faire du CRS maintien de l'ordre, les CRS, c'est les compagnies républicaines de sécurité. C'est une direction spéciale au sein de la police nationale. Il y a plusieurs directions. Il y a la sécurité publique, il y a police aux frontières, il y a le RAID et donc les CRS, par exemple. Puis, il y en a encore d'autres. Et donc, les compagnies républicaines de sécurité qui s'occupent des missions de maintien de l'ordre en priorité. La première femme qui a de la paix, donc de bon grade, quoi, avec un bouclier et puis un tonfa et son casque là au contact des manifestants, c'est 2014. Mmh. Et moi, je suis arrivée dans la spécialité la plus dure de la police nationale avec le RAID, les forces spéciales, en 2016. En fait, ça aurait été quasiment impossible de venir plus tôt. Il y aurait eu trop de barrières administratives à casser, de barrières mentales encore plus énormes. Ça aurait été très compliqué de venir plus tôt, en fait.
Et depuis ton entrée, il y a eu d'autres femmes?
Et aujourd'hui, sur 200 agents, on est 4 femmes.
4 femmes. Et tu travailles avec elles ou c'est des services différents sur...
Alors, il y en a une qui est dans mon service, sinon les autres, elles sont dans d'autres services. Mais ça a été possible. Les femmes, elles sont arrivées après moi parce qu'il y a eu vraiment une vraie volonté de ma hiérarchie d'embaucher des jeunes femmes, leur faire des petits contrats pour qu'elles découvrent l'institution, pour qu'elles voient que bah, les policiers, ce n'est pas des méchants, pour qu'elles voient qu'il y a vraiment des opportunités professionnelles intéressantes. Il faut une vraie volonté de la hiérarchie qui ont vraiment dit, bah non, nous, on recrute une femme sur ce poste-là pour qu'elle découvre le job.
Et est-ce que
sinon, ça ne marche pas.
Est-ce que vous faites des actions de sensibilisation dans les écoles, par exemple, pour présenter ce métier ou... Toi, je sais que du coup, tu parles beaucoup dans les médias pour parler de ça. Est-ce qu'il y a des retours là-dessus? Est-ce que tu as déjà eu des jeunes filles qui revenaient en disant, ah bah, c'est ça que je veux faire? T'as déjà eu un
bah, retour direct? Ça, j'ai fait des interventions dans les écoles. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils viennent avec nous, qu'ils viennent où on travaille, qu'ils voient les bureaux, qu'ils voient la base hélicoptère, qu'ils voient le matériel qu'on utilise, pour vraiment démystifier tout ça, parce que juste quand ils nous voient, bah, en plus, on a l'uniforme, et donc c'est marqué dessus, police nationale, CRS, secours en montagne, c'est hyper impressionnant. Et donc, ça ne suffit pas pour démystifier. Il y a trop de clichés qui sont rattachés à l'uniforme, à l'activité, au métier. Et pour briser ces clichés, il faut vraiment que les jeunes femmes ou les jeunes hommes viennent chez nous, dedans, pour voir. Ces histoires de postes de service civique ou d'emploi jeune là, pour découvrir l'institution, c'est idéal parce que tant que tu n'as pas mis les pieds dedans, tant que tu n'as pas vu le rythme de travail et puis on va dire l'ambiance et puis le côté humain des secouristes, parce qu'on s'en fait tout un imaginaire comme quoi c'est des grosses machines, comme quoi c'est des mecs super costauds et tout. Bah non, en fait ils ont aussi leur faiblesse. Il y a des jours ils sont pas dedans, il y a des jours ils ont la crève, il y a des jours ils ont pas dormi de la nuit parce que leur petit il est malade. Bah en fait non, ils ont aussi leurs problématiques, c'est pas des surhommes, et ça fait du bien de voir un peu tout ça et puis de démystifier le rythme aussi, parce qu'on voilà, moi c'est la même chose qu'avant que j'entre au GMHM. En tant que jeune, surtout encore plus en tant que jeune femme, tu te dis, mais est-ce que je vais arriver à les suivre? Ils sont tous trop forts physiquement, ça va être trop dur pour moi, etc. Parce que c'est ce qu'on nous inculque aussi depuis longtemps, depuis la sixième, avec tous ces barèmes sportifs différenciés. Donc forcément, en tant que jeune femme, ça te rajoute encore plus. Pour un jeune homme, déjà, c'est impressionnant, mais une jeune femme, bah, ça te rajoute encore plus de barrières. Et voilà, c'est des barrières qu'on se met, qu'on nous met, voilà, qu'on entretient, et ça prend beaucoup de temps de les casser.
Et donc là, aujourd'hui, tu es encore en poste dans ce métier ?
Donc aujourd'hui, je suis affectée à la section d'Albertville. Et du coup, on fait le Savoie, on fait les secours terrestres et héliportés dans tout le département de la Savoie. Et en parallèle, je travaille un petit peu avec mon diplôme de guide d'haute montagne. Et j'ai monté un club qui s'appelle Lead the Climb. Lead the Climb, mène ta grimpe. Alors, c'est un club qui propose des stages de formation à l'autonomie et au leadership dans les sports de montagne entre femmes. C'était important pour moi de mettre le mot leadership dans le nom du club, en fait. Donc, le nom du club est en anglais. Alors, oui, ça rajoute des détracteurs, mais en fait, on se rend compte que le terme leadership n'existe pas en français. C'est intraduisible. Il y a des concepts comme ça. Clairement, quand tu apprends une nouvelle langue, tu apprends une nouvelle façon de penser le monde. C'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans, que je partais aux États-Unis. C'est ce qui m'est arrivé de nouveau quand, à 21 ans, j'ai appris l'allemand. C'est vraiment une nouvelle façon de penser le monde et d'imaginer le monde. Et le mot leadership, il est intraduisible en français parce qu'on n'a pas cette notion de leader, de concept. Ce n'est pas un chef, un leader. Et ce n'est pas un meneur non plus, un leader. C'est vraiment un terme à part. C'est quelqu'un qui... Les gens le suivent parce qu'ils ont envie de le suivre. Ils ne le suivent pas parce qu'il a le grade qui va avec, ou parce qu'il a la paye la plus haute, ou parce que c'est marqué chef sur son bureau. Les gens, ils le suivent parce qu'il a envie. Et donc, quand tu vas en montagne avec ta cordée, bah, tu peux être chef de cordée ou tu peux être leader de ta cordée. Voilà, c'est à toi de voir ta façon de pratiquer. En tout cas, le leadership. Chez les femmes, ça manque quand même un petit peu. On voit que dans les sports de montagne, il y a 40% d'adhérentes dans les fédérations. Donc oui, il y a plein de femmes en montagne. Il y a 15% de femmes qui sont présidentes de clubs, responsables de sorties bénévoles en montagne. Il y en a 2% qui sont professionnelles guides d'haute montagne.
Ok.
Donc les chiffres sont quand même assez parlants. Il y a plein de femmes en montagne, mais dès que tu montes dans la place de la cordée, dès que tu montes en altitude, elles disparaissent. Donc c'est un peu l'objectif du club, c'est de donner plus de place aux femmes. Moi j'ai été étonnée quand j'ai fait partie du groupe féminin de l'ENAF en 2005. J'avais pas spécialement envie de pratiquer avec d'autres femmes, mais quand je me suis retrouvée avec toutes ces filles, et c'était trop cool en fait, c'était trop plus facile. Il n'y avait pas de quiproquo au relais avec le mec qui te sert un peu trop dans le refuge, ou qui te dragouille entre les voies, entre les longueurs là. Et que s'il comprend qu'il n'y a pas moyen, et ben, du coup, il t'appelle plus pour grimper. Voilà, ça c'est vraiment pénible. Les cordées de séduction, ça s'appelle dans les études de genre sur l'alpinisme. Oui, il y a des études de genre sur l'alpinisme. Il y a des gens qui font des tests là-dessus. C'est passionnant. Les cordées de séduction, voilà, c'est quand le gars, il t'appelle pour aller grimper, mais en fait, il a surtout envie de sortir avec toi. Et quand il a compris qu'il n'y avait pas moyen, et ben, du coup, il t'appelle plus. Et puis en plus, c'est très désagréable parce que toi, tu es concentré sur ton escalade, ta sécurité physique. Et ben lui, il pense juste à te coller au relais. Donc, à la fois, tu dois revêtir ton armure de nouveau pour te protéger de ça, parce que toi, tu n'as pas envie de coller au relais. Puis, à la fois, tu dois te concentrer sur ta sécurité de progression en alpinisme. Donc, draguer en montagne, c'est OK, mais c'est après la bière. Voilà, ça, c'est fait. Et donc, lead the climb. Et donc, 15 ans plus tard, après mon expérience avec les groupes féminins, moi, je me disais, non, mais c'est bon, depuis 15 ans, parce que 2005... Donc c'était moi j'étais à l'ENAF, la création de l'ENAF, Et 2017, je crée Lead the Climb. Donc, voilà, 12 ans plus tard. Je me disais, mais quand même, il n'y a plus besoin des groupes féminins. C'est bon, on a compris que les femmes, elles sont capables de prendre le leadership en montagne, elles sont capables de devenir guide de montagne et tout. Et en fait, non, en 10 ans, il y a eu de plus en plus de femmes qui voulaient sortir en montagne entre femmes. Parce que finalement, 10 ans plus tôt, si tu disais, non, mais moi, je préfère aller en montagne avec mes copines, et ben, les mecs, ils le prenaient trop mal, en mode, ah oui, mais tu veux pas venir, ah ouais, comme ça, tu veux pas venir en montagne avec nous, c'est nul et tout, bon, bah, ok, et ben, vas-y avec tes copines, sauf que des copines, t'en avais pas beaucoup, donc c'était vite réglé.
Ouais.
Donc, en fait, il fallait pas trop le dire, tu voulais aller en montagne avec les copines, sinon, en fait, t'avais plus personne avec qui grimper, c'était super mal vu. Et donc, voilà, il fallait dire, si, moi, j'aime bien aussi aller avec les copains, mais voilà, avec les copines, c'est différent. Voilà, fallait arrondir un petit peu les angles. Et en fait, 10 ans plus tard, ben, les nanas, elles voilà, disent haut et fort, ben non, en fait, moi, j'ai envie d'aller en montagne avec des copines. Et ça leur posait moins de complexe de l'affirmer haut et fort. Du coup, en 10 ans, eh ben, c'est passé de 3 groupes féminins à 15.
D'accord.
Un groupe féminin, c'est 8 nanas qui vont être sélectionnées pour une formation pendant 2 ans. Donc, 15 groupes féminins, ben, ça veut dire à peu près 90 femmes.
D'accord. Oui, donc c'est bien une formation. Ce n'est pas, par exemple, pour faire un stage d'initiation, découverte. C'est vraiment une formation pour celles qui veulent aller plus loin.
Oui, nous, on est parti sur ce créneau-là. Alors, après, si tu veux faire plus la découverte de l'initiation, il y a le club Girls to the Top. Voilà, mais nous, on s'est un peu focus sur les filles qui pratiquent déjà et qui ont du mal à prendre le leadership de l'accorder. Tu vois, soit leurs copains, ils les guident et du coup, ben, elles sont toujours un peu en seconde. Soit elles ont toute une bande de copains avec qui aller, mais elles n'arrivent pas à s'imposer en leader. Soit elles ont quelques copines avec qui aller, mais du coup, elles ont tout un niveau un petit peu technique très bas. Donc, du coup, elles ne peuvent pas vraiment faire de courses intéressantes. Voilà, on s'intéresse aux femmes qui pratiquent déjà, parce qu'il y en a plein. Il y en a 40% dans les fédérations.
Ok, ouais, c'est intéressant comme chiffre. Et donc, je vais revenir au présent, du coup, parce que si j'ai bien compris, tu es maman. Est-ce que le fait d'avoir l'arrivée d'un bébé, ça a posé des soucis par rapport à ton poste? Parce que souvent, il y a certaines missions qui sont données à des hommes quand les femmes sont absentes ou quoi. Comment ça a été pris dans ton environnement professionnel? Est-ce que ça a été bien accepté, soutenu ou pas? Parce que t'es entourée de beaucoup d'hommes, hein, je sais pas trop comment ça se passe.
Alors, au niveau de la police, ça a été super bien accueilli. Avant même, mes supérieurs me disaient « Non, mais Marion, quand même, c'est une super aventure d'être parent et tout. Tu devrais, franchement, c'est trop dommage de passer à côté et tout. » Donc, mes super hiérarchiques, déjà, qui me donnaient ce discours-là. Donc, quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte, ils étaient juste trop contents pour moi. Et c'était trop chou. Et ils m'ont laissé tranquille. Comme on a un métier vraiment physiquement exigeant, c'est vrai qu'à partir à la fin du 4e mois, je pouvais déjà plus aller sur le terrain. Donc le 5, 6, 7, 8, elle est née un petit peu plus tôt que prévu. Donc ils m'ont laissé tranquille. Donc pendant 4 mois, ils m'ont vraiment laissé tranquille. Je regardais les Netflix et j'allais manger le midi à la cantine, quoi. Et ensuite, j'ai pris tous mes congés, toutes mes pauses, toutes mes récups. Et donc ça veut dire que j'ai pu traîner jusqu'à 5 mois postpartum sans perte de salaire. Donc au total, je me suis arrêtée 9 mois.
Okay.
Et je pense, je connais aucun métier où tu peux faire ça sans perdre de salaire. Donc ouais, là j'ai vraiment une expérience plus que positive et ultra compatible avec le service. Enfin, ça passait quoi. En fait, dans le métier de secouriste en montagne, on se blesse régulièrement et quand tu te fais les croisés, bah, c'est 6 mois. Une épaule, c'est 3-4 mois. Une épaule qui traîne, ça va être 3 mois plus 3 mois. Donc en fait, s'arrêter 10 mois, c'est pas choquant dans une carrière de secouriste. On se blesse souvent et c'est, voilà, ça fait partie du taf. Donc, c'était vraiment royal. Là-dessus, j'ai une expérience super positive. Par contre, j'avais des partenaires matériels qui m'ont tous lâché. Donc, je perds 5 000 euros de dotation matérielle l'année suivant ma grossesse. 5 000 euros de matériel, à savoir que c'est 5 000 euros par an. Et c'est des contrats qu'en général, tu gardes jusqu'à 40, 42 ans. Donc, si tu multiplies par le nombre d'années pour lesquelles j'aurais gardé ces contrats, si je n'avais pas eu d'enfant, ça fait 25 000 euros de matériel.
Mais
donc, les marques en question, elles s'appellent Petzl. C'était mon partenaire pendant 6 ans. Et quand je leur ai dit le team manager français, je leur ai envoyé le mail en lui disant bah, « Là, j'étais enceinte cette année. Je suis enceinte de 3 mois. Voilà, c'était pour t'informer. Voilà, si tu veux me mettre plutôt sur des missions de représentation plutôt que d'encadrement sur le terrain. » Il m'a dit « Ah, bah, comme tu ne vas pas faire grand-chose cette année, je te mets que 1 000 euros de dotation matérielle au lieu de 2 500 prévus. Hein, ça ne te dérange pas ?» J'apprécie, ça me dérange beaucoup, ouais. Donc là, en plus, je sortais d'école de police, donc j'avais quand même étudié le code pénal, les discriminations. J'appelle une association qui s'appelle Éthique et Sport, qui me dit qu'effectivement, là, c'est 225-1, c'est 3 ans de prison, peine maximale et 45 000 € d'amende. Et ben, du coup, j'ai eu des conseils gratuits d'un avocat qui m'a dit, tu lui expliques ça tranquillement dans le mail, je pense que tu vas recevoir ton contrat. Effectivement, il a vite compris. Donc, je lui ai écrit un mail au début à l'amiable en lui disant, mais comment ça se fait si je perds le bébé, parce que là, je suis à 3 mois, et si je fais une fausse couche à 5 mois, à 7 mois, à 2 jours, à partir de quel moment je récupère mon contrat complet? Parce que là, ça se passe comment, la grossesse, là? Enfin, un truc hallucinant. Et là, je parle de ça, on est en 2019. D'accord. Et hallucinant. Et j'ai voulu commander un petit baudrier pour les bébés. Ils m'ont dit, non, tu ne peux pas commander du matériel que tu ne peux pas porter. Ton contrat, c'est que pour l'athlète. Tu ne peux pas commander un baudrier pour ton bébé. Mais ça coûte 30 balles, un baudrier.
C'est fou,
alors, donc, voilà, c'était hors de question que je fasse un don de 1 500 € de matériel à l'entreprise Petzl. Donc oui, j'ai râlé. Donc oui, j'ai fait valoir déjà à l'amiable au début, j'ai un petit peu râlé. Ça n'a rien changé. Donc j'ai fait valoir cet article de loi. Là, ça a tout changé. J'ai reçu le contrat complet. Mais à la fin de l'année, ils m'ont quand même viré parce que j'étais pas assez communicante. C'est vrai que depuis le 1er janvier, au total, je crois que j'ai fait 1h30 d'audience à la télé entre France 3, France 2 et... Et donc, non, c'est vrai, je ne suis pas assez communicante et je ne suis pas assez performante. C'est vrai qu'un an postpartum, j'ai fait un 8A et il n'y a pas beaucoup d'alpinistes, guides haute montagne, secouristes qui font des 8A un an postpartum. Déjà, je pense qu'en fait, il n'y a pas de. On est deux, guides haute montagne, secouristes et maman. Donc, de toute façon, la comparaison, elle est vite faite.
Ils sont trop
performants. Et donc, je suis pas assez communicante. Donc, ils m'ont viré la fin de l'année après 6 ans de partenariat, l'année suivant ma grossesse. Mais c'est pas les seuls, hein. Il y a aussi la marque Millet.
La marque Millet
donnait aussi 2 500 € de matériel par an pendant 6 ans. Et donc, l'année de ma grossesse, ils n'ont pas touché à mon contrat. Et l'année suivante, ils ont sorti un clip promotionnel de la marque. Ça s'appelle Millet Rise Up 2020. Il n'y a pas une femme qui fait de sport de montagne. Il y a 10 athlètes qui sont mis en avant dans le clip, dont 2 femmes, une femme qui grimpe en indoor et une femme qui fait du ski que tu peux pas identifier comme une femme. Mais tu vois un mec qui fait la cascade de glace, un mec qui fait l'alpinisme, un mec qui fait le trail, un mec qui fait l'escalade en grande voie, un mec qui... Bref. Et il me demande de partager ça sur mes réseaux sociaux. Alors, je leur ai gentiment dit, bah non. Ou alors, faut que vous m'expliquiez comment ça se fait qu'il n'y a aucune femme en liste. Et ils m'ont dit, bah oui, mais toi, on pouvait pas te solliciter parce que tu étais enceinte. Donc, ils m'ont refusé. Ils m'ont pas proposé du travail, parce que c'est quand même, t'es rémunéré quand t'es filmé pour leur clip là. Ils m'ont pas proposé du travail parce que j'étais enceinte, alors que je leur ai dit, mais une arête cosmique, un truc facile en alpinisme, comme c'est le cas dans le film, si vraiment mon ventre y dérange, je mets une doudoune, ça se voit pas, hein. J'étais pas non plus énorme, et je veux dire, ça se gère, quoi. Mais déjà, juste, vous me proposez le job, quoi. Donc, ils m'ont même pas proposé, et puis ils m'ont dit, on veut pas se faire accuser de faire travailler des femmes enceintes, pas voulu te solliciter. Ils sont trop choux quand même, non? Ils voulaient vraiment me laisser tranquille pour que je fasse tranquillement mon bébé dans mon coin, quitte à ce que je gagne pas d'argent. Non, c'est vraiment trop chou. Je leur ai dit, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors ils m'ont dit, bon, bah, puisque tu critiques notre travail, t'as plus rien à faire chez nous, salut.
Mais c'est.
Et je dis, bah non, mais ça se passe pas comme ça. Tout ça, c'est par échange de mails. Hein. Il y a jamais. Ça a mis très longtemps avant que finalement, il y a le boss qui décroche le téléphone et qui me parle, quoi. Mais le team manager, il se prend pour un tout puissant. Et ils ne respectent même pas son contrat. Et je leur ai dit, mais non, mais par mail, en début d'année, là, on est en mars 2020, en juin 2020, vous m'avez reconduit mon contrat de 2 500 € de dotation matérielle. Et là, au mois de mars, vous m'annoncez que vous ne voulez pas me le donner parce que je refuse de partager votre clip où il n'y a aucune femme mise en avant dans les sports de montagne, dans un clip promotionnel de la marque. On est en mars, moi, je ne vais pas aller solliciter des nouveaux sponsors matériels. Donc, en fait, c'est marqué dans le mail de janvier. Et effectivement, j'ai refait appel à l'avocat du comité éthique et sport qui m'a confirmé que proposition de contrat par mail vaut contrat. Donc, je les ai forcés à me faire un contrat. Ils m'ont dit, oh, bah, si c'est comme ça, tu n'auras plus de contrat pour l'année d'après. Mais c'est pas comme si ils allaient m'en donner un. Donc, la conclusion, c'est que l'année après ma grossesse, je perds 5 000 € de dotation matérielle par an. Donc, ce qui fait un peu, on va dire, 25 000, 30 000 balles. Si on ramène ça au nombre d'années sur lesquelles j'aurais pu garder mon contrat si j'avais pas eu la grossesse. On est en 2020 et je suis l'alpiniste la plus diplômée dans les sports de montagne en France.
Non mais c'est ça. En fait, ils sont complètement débiles parce que enfin, qui mieux que toi pourrait représenter leur marque auprès des femmes, enfin, c'est vraiment...
Ça les intéresse pas. Ils disent toujours que de toute façon, ils ne vendent pas beaucoup de matériel pour les femmes, que les femmes, elles achètent moins. Alors, c'est bizarre que dans toutes les autres marques de fringues du monde, c'est les femmes qui achètent le plus de fringues. Et là, soi-disant, dans les marques de montagne, ils me disent toujours que non, elles achètent moins de fringues que les gars. Donc, c'est pour ça qu'ils ne misent pas tellement sur les femmes. C'est quand même étrange. Hein.
C'est l'inverse. Ça
m'appelle un petit peu quand même.
C'est parce qu'elles ne sont pas représentées qu'elles n'achètent pas.
Mais oui, c'est parce que les fringues qu'ils font pour les femmes, elles sont nulles.
En plus, c'est vrai. C'est vrai, c'est toujours plus moche et mal coupé. Oui, on préfère toujours les fringues des mecs. Moi, ça me fait pareil. Hein. Dans les magasins de sport, je veux toujours voir les fringues des mecs. Et nous, on a des... c'est vrai qu'on a des... avec des couleurs dégueulasses. Enfin, c'est des trucs immétables.
Du coup, il y a du rose. Il faut toujours des fermetures éclair rose. Au cas où, on se trompe. Au cas où, le mec, il arrive en montagne, il commence à draguer la personne au relais. Puis en fait, c'est un mec, tu vois. Oh, bah, il s'est trompé. Alors surtout, il faut qu'on nous mette du rose partout pour ne pas se tromper, tu vois. Oula, bah oui, comme ça, il faut bien l'afficher. C'est comme le mademoiselle. Il faut bien afficher que disponible. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est open bar. Non, on dit madame et monsieur. On ne dit pas des mademoiselles. C'est la même chose, on est dans le même camp, mais pas des petites fermetures roses de partout. Voilà, j'ai fait un post récemment sur Facebook qui a fait pas mal de débats, de nouveau, sur le legging. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux t'acheter des fringues pour faire du footing ou du sport, ben, tu tombes sur le legging, tu veux t'acheter un jean, tu tombes sur le legging, il faut absolument un truc qui nous moule les fesses. Et le seul moyen de ne pas avoir un truc qui te moule les fesses, c'est d'aller faire acheter un pantalon de freeride.
Mm.
C'est pénible.
C'est intéressant.
Voilà. Faut changer de contour, hein.
Bah, on a déjà beaucoup parlé, merci pour tout ça. On a abordé plusieurs fois le fait d'être une femme dans son univers. Je voudrais terminer. Est-ce que tu veux bien nous partager trois leçons de vie que tu aurais apprises au cours de ton parcours ?
Eh ben, je dirais s'entourer des bonnes personnes. Dans le sens où des fois, bah, ta famille ne te soutient pas forcément dans tes objectifs, dans tes projets. Bon, tu ne peux pas changer de famille. Mais tu peux prendre peut-être un peu de la distance avec eux, le temps d'essayer de te réaliser. S'entourer des bonnes personnes, ça veut dire ton compagnon de vie. Ça veut dire que si tu commences à avoir un mec qui te dit « Ouais, mais je suis pas sûre si tu peux, si c'est pour toi, si... » Non, non, celui-là, suivant. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand tu trouves un compagnon ou une compagne, hein, mais bon, souvent, moi, ma problématique, c'était dans ce sens-là, bah, ça change tout, en fait. Moi, j'ai eu des compagnons, on va dire, toxiques. Et pourtant, je me considère comme une femme forte et je suis quand même tombée sur des mecs hyper toxiques. Cet exemple de quand j'étais au GMHM, de oh, « ça va, tu vas pas te plaindre, déjà que t'es payé à grimper », ou encore un peu violent. Oui, violent. On se disputait beaucoup et puis il commence à m'envoyer des oreillers dans la figure. Bah là, t'attends pas, tu passes le pas de la porte et tu rentres chez toi. Ou voilà, des compagnons qui me soutenaient pas dans mes projets, dans mes ambitions. Je me sentais dégradée, je me sentais rabaissée, je me sentais... Alors que quand même, je pense qu'il n'y a pas de quoi. Et je pense qu'aucune d'entre nous. Donc ça, c'était pas normal. Et maintenant, je pense qu'avec les expériences qui se sont enchaînées assez rapidement, dès les premiers signes, je les repère, les relations qui vont devenir toxiques ou les personnes toxiques. Et ça, il faut vraiment être très, très vigilante et vraiment, je dirais, intransigeante. Parce que quand on a soi-même des projets, des envies, des ambitions, on va se mettre dans des situations un peu stressantes, un peu fatigantes, et on ne sera pas toujours sur ses gardes. Et il faut pouvoir qu'on rentre le soir et qu'on puisse vraiment tout lâcher, parce que sinon, c'est vraiment compliqué d'atteindre ses objectifs. Quoi. Donc, s'entourer des bonnes personnes, voilà. Que ce soit la famille, on peut parfois prendre un peu de distance, les compagnons, super important, et puis les amis, ouais, évidemment. Mais après, c'est vrai que moi, c'est pas que j'ai pas eu le temps d'avoir des amis, j'ai des amis pour faire des trucs, mais les amis, ça se cultive aussi. C'est vrai que si tu veux te focus un peu parfois sur tes études, sur des projets professionnels, les amis, bah, c'est compliqué, quoi. Ils ont aussi des choses à faire. Il ne faut pas trop leur en demander non plus, les amis. Mais les amis, c'est important, évidemment. Un cercle fort qui te soutient, c'est toujours chouette. Du coup, s'entourer des bonnes personnes. Et puis après, je dirais aussi s'entraîner. C'est bizarre, mais s'entraîner dans l'optique d'échouer. C'est-à-dire se donner à fond et sans savoir si ça marchera, en fait. Et ce n'est pas grave. En fait, il faut apprécier chaque moment d'effort et chaque moment où on s'entraîne pour rejoindre cet objectif. C'est pas tellement l'objectif en soi qui compte, c'est surtout le chemin. C'est un peu bateau de dire ça, mais en fait, c'est pas si évident à appliquer au jour le jour. Voilà, c'est de se dire, bah, là, aujourd'hui, je m'entraîne, je fais ces 7 montagnes, et puis peut-être que j'arriverai pas à mon objectif final. D'ailleurs, je ne l'ai pas atteint, mon objectif final, parce que, mais à un moment, mon objectif, c'était d'être la meilleure alpiniste du monde, et puis surtout d'être plus forte que Catherine Destivel, la femme alpiniste française ultime qui a vraiment la plus belle liste de courses. Bon, bah, j'ai pas réussi. Elle a toujours la plus belle liste de courses que moi. Et c'est pas grave, en fait. Finalement, c'est pas très grave. Ça a été frustrant pendant un petit moment. Et en fait, c'est que c'était pas ça mon chemin. C'est que c'était pas ça mon objectif final, quoi. Mais c'est pas grave, parce que d'avoir eu cet objectif pendant un moment, et ben, ça m'a fait avancer dans une direction, ça m'a fait progresser, je me suis donné les moyens pour m'entraîner, pour progresser, et ça m'a donné d'autres opportunités, comme de passer les diplômes, de devenir secouriste et exode de montagne, etc. Et puis, tant pis si j'ai pas été plus forte que Catherine Destivel. Je lui laisse.
Moi, je voulais dire,
dans les Alpes, les Guerres, le Cervin et les Grandes Jorasses. C'est pas grave, j'irai te cailler le cul ailleurs. Non, mais voilà. C'est s'entraîner, même vraiment sans l'objectif final, en fait, même si c'est pour échouer. C'est pas un échec. Voilà. C'est le chemin vraiment qui compte. Et puis après, le troisième. Ouais, je sais pas. Ouais, faut y aller, quoi. Faut oser. Faut essayer.
Oser. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ça fait des super bons conseils. C'est bien aussi de garder un mentor qui nous motive à faire toujours mieux.
Mais comme bon, Catherine Destivel.
Ouais.
Ouais, je pense que la maman.
Que toi-même, du coup, t'es devenu un modèle pour beaucoup de femmes, j'imagine. Et. Un modèle de motivation, tu as ouvert je ne sais pas combien de portes, tu as fait l'impossible plusieurs fois et tu continues à faire ton chemin. Et je ne sais pas ce que ça fait d'ailleurs d'incarner, d'être un modèle pour autant de gens et d'être la première dans ce genre de secteur. Mais en tout cas, je te souhaite de continuer à faire tout autant de choses incroyables. Et maintenant, dans la nouvelle aventure en tant que maman aussi, j'imagine que tu vas vivre plein de nouvelles choses. Et voilà, je te remercie. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre.
Non, merci pour ton temps d'écoute, parce que c'est aussi grâce à des personnes comme toi que, bah, du coup, mon histoire, elle sert à quelque chose, quoi. Que s'il n'y a personne pour l'écouter ou pour la lire, bah, du coup, ça ne sert à rien, quelque part. Ça touche les personnes proches, vraiment autour de moi, mais... Ce qui est vraiment génial aujourd'hui avec toutes ces plateformes et tous ces réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être une vieille, mais c'est tellement récent ces trucs-là et c'est vraiment des outils fabuleux. Et je vois que tu t'en sers très bien et je pense que c'est hyper important et je pense que c'est comme ça que les femmes, elles vont réussir à plus se mobiliser et s'entraider, un peu plus de sororité.
C'est ce qu'on espère. Bah, merci infiniment, Marion. Je te dis à très vite et je vais mettre tes liens dans la description de l'épisode si les gens veulent te suivre ou te poser des questions. Sur tes différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à partager l'épisode, vous mettre des commentaires ou poser des questions à Marion ou à moi-même. Je te dis à bientôt, peut-être. Bonne continuation et merci encore, Marion.
Merci.
J'espère que cet épisode t'a inspiré, que tu as appris des choses et que tu as plein de motivation pour aller vivre tes rêves et faire de ta vie une aventure. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour m'aider à inspirer le plus de monde possible. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram avec @adventuresway. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et de nouvelles aventures.